complètement perdu le contrôle du temps. Alors, on va essayer de se ressaisir un petit peu sans vous prétériter. On vous écoute. Bon, enfin,
j'espère être dans les temps. Bon, à première vue, mon exposé va être très complémentaire de celui de Madame Stucki, qui a déjà apporté les premiers points. Et je pourrais, disons, compléter. Je pense que ce que j'ai préparé va compléter. Alors, mesdames, messieurs. Alors, j'aimerais d'abord remercier les archives contestataires d'avoir organisé ce débat sur la psychiatrie, genre de débat qui commençait, à vrai dire, à me manquer quelque peu. Je les remercie également d'avoir pensé à inviter un non-professionnel du domaine, quoique certains diront que je suis presque devenu un professionnel. Ah oui, puis je devais me présenter, donc vous avez donné mon nom, donc... Bon, j'expose un peu aussi par la suite. Actuellement retraité, j'en ai pas l'air, mais paraît-il que je remplis les conditions. Et j'ai été militant depuis la création de la DUPSI à l'époque. Et je me suis toujours un peu qualifié de militant antipsychiatrique indépendant. Pourquoi indépendant? Parce que c'est vrai que c'est difficile de... C'était difficile d'avoir un peu une ligne de conduite, enfin de voir, des opinions communes dans ce qu'il faudrait faire pour améliorer la psychiatrie, parce qu'il y en a des qui se satisfaisaient très bien de ça, notamment du côté de Lausanne. Il y en avait d'autres qui voulaient tout jeter, fallait mettre le feu à la pharmacie de Bel Air, puis il y en a d'autres qui étaient prêts à composer, à voir ce qu'il faut prendre comme médicament, etc. Alors, bon, je reprends un peu l'exposé que j'avais prévu. Bon, c'est pas dans le titre, mais le premier sujet que les organisateurs souhaitaient me voir aborder est de vous expliquer comment on devient un militant. Militant, en l'occurrence, antipsychiatrique. Alors, pour ce qui me concerne, je dirais que c'est très simple. C'est l'institution qui a fabriqué, produit et modelé le militant. En effet, à part divers problèmes que je souhaitais résoudre, j'avais débuté une vie tout à fait rangée en travaillant dans une administration et je n'avais à l'époque pas de velléité contestataire. Mais c'est en étant au contact d'une institution qui ne respectait pas l'autonomie individuelle, qui violait le secret médical systématiquement, voire qui n'hésitait pas à mentir à la presse pour défendre le ronron institutionnel, et il est important, à mon avis, de préciser ici qu'à l'époque, l'institution psychiatrique était pleine, aussi dans les instances dirigeantes, de militants d'Amnesty International. Tenez-vous bien. Je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet ce soir, d'une part parce que mon temps de parole est chronométré, et d'autre part, bon, raison plus sérieuse celle-là, parce que j'ai l'intention de procéder à la rédaction d'un livre sur mon vécu à cet égard. Vous ne vous étonnerez donc pas si, dans un avenir plus ou moins proche ou lointain, vous verrez apparaître un livre réquisitoire contre, non pas seulement les dysfonctionnements illégaux que certains qui étaient organisés en haut lieu à l'époque, et les erreurs ou fautes graves que certains ont pu commettre, et que les principaux concernés, qui font depuis, en tout cas pour l'un d'entre eux, une brillante carrière à l'intérieur de la société de psychanalyse, ne veulent toujours pas reconnaître. Alors, pratiquement, je suis entré en contact avec le milieu militant en suivant l'actualité de l'époque, et c'est quand j'ai vu que deux médecins psychiatres avaient été virés de l'institution, parce qu'il souhaitait, pour résumer dans le fond, une psychiatrie plus respectueuse des malades. C'est ainsi que j'ai pris contact avec l'un d'eux lorsqu'il s'est installé en privé, juste après s'être fait éjecter de l'institution. Et c'est ainsi que j'ai découvert qu'il y avait plusieurs militants, usagers, soignants et avocats qui participaient déjà à l'époque au réseau alternatif à la psychiatrie et que le projet d'association visait un peu à prolonger ce qui se passait au réseau sur Genève. Et c'est en étant en contact avec tous ces gens que j'ai commencé à comprendre le fonctionnement institutionnel et judiciaire. Ce que j'ai retenu, c'est que la justice, c'est un mélange de connaissances du droit et de tactique, un peu comme un jeu d'échecs. Autrement dit, il n'y a pas en effet que le droit pur qui fera qu'une personne obtienne gain de cause, mais également une bonne part de tactique. Et c'est le plus doué dans les deux domaines qui va gagner. Alors, comme la DIPSI a été créée au mois de mars 1979, et que le Grand Conseil genevois a terminé ses travaux de refonte de la loi sur la psychiatrie, c'est ainsi que, tout naturellement, j'ai commencé à m'intéresser aux aspects juridiques de la psychiatrie. Et c'est ainsi que j'ai déposé mon premier recours au tribunal fédéral contre la disposition de la nouvelle loi votée en décembre 1979, qui imposait à la personne ayant fait une entrée volontaire dans un établissement psychiatrique de demander une autorisation de quitter la clinique lorsqu'elle ne souhaite plus y rester, et ce comme pour une personne ayant été hospitalisée non volontairement. Le recours a été rejeté par 6 voix contre 1, celle du juge rapporteur, qui, je m'en souviens encore très bien, a vraiment essayé de défendre sa position jusqu'au bout. Ensuite, je me suis attaqué 4 ans plus tard aux autopsies, dont un règlement du Conseil d'État prévoyait que les établissements publics médicaux pouvaient effectuer des autopsies, nonobstant l'opposition des proches ou du défunt lui-même, lorsqu'elles étaient nécessaires pour déterminer la cause exacte de la mort. J'ai fait ce recours-là, même si des amis militants me disait que, lorsqu'il serait décédé, cela leur était égal si les médecins allaient examiner l'intérieur de leur corps s'ils sont déjà décédés. En fait, ce que je visais à combattre, en l'occurrence, était le pouvoir médical, qui bénéficiait de pouvoirs supplémentaires. Donc, après avoir été quelque peu choqué du pouvoir que les psychiatres s'accordaient, et que la société leur accordait bien volontiers d'ailleurs, je me suis dit qu'il fallait limiter le pouvoir des médecins à tout prix. Et ce recours-là, je l'ai gagné à l'unanimité des 7 juges, ce que le milieu juridique appelait un 7-0. Alors vous avez, j'ai amené la manchette de la Suisse de l'époque, du lendemain de la délibération du tribunal fédéral. Alors, l'argumentation du juge a été très simple. Ils ont dit, s'agit-il d'une atteinte à la liberté personnelle ? Réponse oui, car la liberté personnelle se poursuit au-delà de la mort. Ensuite, ils ont dit, pour qu'il puisse y avoir une atteinte à la liberté personnelle, il faut une base légale claire, établie par le législateur. La question était donc, l'alinéa que je contestais, constituait-il une base légale ou reposait-il sur une base légale claire ? Réponse non, car il s'agit d'une disposition d'un règlement du Conseil d'État et les 7 juges ont décidé d'annuler la linéa que je contestais. Au passage, dans l'arrêt publié, qui a été au programme d'ailleurs de l'enseignement des facultés de droit durant plusieurs années, et j'ai appris par la suite, le tribunal fédéral a quelque peu écorné une vieille croyance qui disait que si on est hospitalisé dans un établissement public, les clients de l'établissement public seraient soumis à un rapport de droit spécial, un peu comme le citoyen face à l'administration fiscale ou à l'armée. C'est l'hôpital qui décide, comme c'est le fisc ou l'armée qui décide. Le tribunal fédéral a reconnu l'application du droit spécial pour les tarifs applicables, les conditions de séjour, la limitation du libre choix du médecin, mais par contre, il a bien spécifié que, pour ce qui concerne les droits des malades, par rapport à un traitement médical, il n'y avait aucune raison de donner plus de pouvoir de décision à un médecin d'un hôpital public qu'à un médecin ayant un statut de droit privé, c'est-à-dire un médecin établi en cabinet ou un médecin travaillant en hôpital privé. Et j'ai bien l'impression, bien que je n'ai pas fait de vérification spéciale pour l'exposé que je vous présente ce soir, c'est que c'est aussi un peu depuis la publication de ce jugement que le tribunal fédéral a mis quelques barrières aux velléités dictatoriales des psychiatres, comme par exemple par rapport au traitement forcé, juste pour prendre un exemple. Donc, le placement du pion pour faire avancer la cause des droits des malades, pour reprendre l'image du jeu d'échecs que j'avais mentionné avant, a parfaitement fonctionné en l'occurrence. Je voulais aussi, en parlant d'action en justice, ça c'est un petit passage, un petit hommage que j'aimerais rendre à Philippe Bernardet, décédé il y a quelques années déjà, et qui était devenu un militant français infatigable, par ailleurs fondateur du GIA, qui est le groupe Information Asile, doublé d'un spécialiste hors norme dans le domaine de l'action judiciaire en France, et qui a gagné également nombre de procédures auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, qui le reconnaissait en tant que mandataire à l'instar d'un avocat. Et je mentionne aussi que j'ai vu des articles de presse que lorsqu'il débarquait, par exemple, à Bourg-en-Bresse, à l'établissement psychiatrique, les médecins disaient ben, « voilà, les emmerdes vont commencer ». Alors, dans la question de la conquête des droits des usagers de la psychiatrie, je relèverai aussi que, paradoxalement, plus la loi reconnaît de droits aux patients, plus grand est le nombre de patients qui font l'objet de mesures coercitives. La modification du Code civil, datant de 1979, est entrée en vigueur en 1981. Entre 1981 et 1999, le nombre d'entrées non volontaires à Genève, à Belle-Idée, a doublé, passant de 1005 à 2034. Donc les chiffres sont pour chaque fois pour une année. La modification législative donc de 1979 du Code civil a prévu que la personne faisant l'objet d'une décision d'entrée non volontaire en établissement psychiatrique avait durant 10 jours le droit de saisir le juge d'un recours contre cette décision. À Genève, cette compétence avait été donnée au Conseil de surveillance psychiatrique. Mais il faut attendre 15 ans avant que le premier recours soit accepté par le dit Conseil. En effet, il est très facile de créer des droits théoriques si l'on déboute ensuite systématiquement les demandeurs. Et je dirais que l'on peut constater que, en fait, bien que des droits soient accordés aux malades et que le fait qu'une instance juridique allait trancher les litiges, que la loi donc, vu qu'elle permet des mesures notamment d'entrée non volontaire et des traitements forcés suivant le cas, eh bien les médecins vont en profiter pour les décider, donc ces mesures, parce qu'ils ont le droit de le faire, alors que le but visé par les lois donc, qui étaient rédigées depuis, pour ceux qui justement avaient participé à leur rédaction, était de diminuer le nombre des mesures de contrainte en instituant justement ces droits de recours auprès de la justice. Ensuite, se pose un problème de procédure dans ce genre de loi. En effet, la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients siège à huis clos dans tous les cas selon la loi genevoise. La personne concernée n'a donc pas le droit de faire valoir publiquement son point de vue. En effet, je rappellerai à cet égard que la Suisse a signé, ratifié et retiré la réserve concernant les privations de liberté décidées par des autorités administratives, la Convention européenne des droits de l'homme qui prévoit expressément le droit pour tout justiciable de défendre sa cause publiquement devant un tribunal indépendant et impartial établi par la loi dans toute cause de caractère civil pour le domaine pénal aussi, donc le concernant. Et ceci constitue, n'en déplaise aux psychiatres et aux tribunaux, un droit de l'homme que la Suisse s'était solennellement engagée à respecter. Je n'ai pas encore étudié le nouveau droit de la protection de l'adulte et de l'enfant, comme il s'appellera depuis le 1er janvier 2013, mais il me semble que le problème que je viens juste de relever va persister, et cela n'est pas normal. Je voulais aussi relever que les médicaments donnés en psychiatrie provoquent parfois des problèmes qui peuvent être assez graves, comme la mort subite ou la survenance de tendances homicides. La mort subite, je l'appelle comme ça parce qu'elle survient chez des personnes ayant consommé des médicaments psychotropes, parfois plusieurs années après le début du traitement, et même après avoir arrêté le traitement. Et comme le fait que la personne était consommatrice de produits psychotropes ou non ne semble pas vraiment intéresser les statisticiens. Et je suppose que les médecins qui constatent les décès ne pensent, voire ne savent pas, qu'une telle donnée pourrait éventuellement être utile pour établir une supposition de la cause de la mort. Je pense donc que nombre de ces décès sont dès lors classés comme mort naturelle. Ceci, je l'ai personnellement constaté lorsque j'étais en contact, notamment avec une association qui s'occupait d'organiser des loisirs pour les malades psychiques. Je n'ai bien entendu pas personnellement vu les certificats de décès, mais j'ai bien observé que les gens décédaient de causes inexpliquées pour moi, donc de causes probablement naturelles pour la faculté. Il y a également eu les dérapages des psychiatres organicistes qui donnaient de véritables cocktails explosifs en guise de traitement, et on l'a vu avec le décès d'Alain, où tous ceux qui ont vu le traitement qu'il avait reçu étaient horrifiés après une première lecture, mais qui n'osaient pas concrétiser leur opinion devant le juge par la suite. Car là, ça devenait très compliqué, car il y avait un rapport d'autopsie qui disait une chose, ensuite les médecins mis en cause qui disaient que, vu la cause évoquée dans le rapport d'autopsie, le traitement ne pouvait pas être responsable de la mort, donc mort prévue, donc mort naturelle. Il y a aussi eu le cas d'une personne encore sous l'influence de l'alcool qui avait été hospitalisée à Prangin. Et ça, c'est déjà un peu plus récent. Là aussi, le médecin directeur de l'établissement avait donné un cocktail explosif qui a aussi abouti à un décès. Le directeur en question a dû être jugé au tribunal et le tribunal avait nommé comme expert le médecin-chef des HUG, qui est donc pharmacologue. Cet expert avait considéré que le directeur de l'établissement, avec le traitement qu'il avait entrepris, avait pris des risques inconsidérés, et en résumé, le rapport fut accablant pour ce psychiatre. Mais ce dernier, loin de se laisser impressionner pour si peu, a fait un peu comme le professeur Tissot pour la mort d'Alain, défiler les médecins directeurs d'établissement psychiatrique de tendance organiciste et qui ont pris la défense de leurs confrères accusés simplement en affirmant qu'ils procédaient de la même manière. Pour finir, le tribunal n'a pas voulu, comme dans l'affaire de la mort d'Alain, trancher dans un débat d'école. Les tendances homicides chez certaines personnes provoquées par les antidépresseurs de la dernière génération ont été mises en évidence par une émission assez récente de la TSR de temps présent. Les psychiatres ont nié une relation scientifiquement prouvée, tout en relevant que, pour eux, de nombreuses personnes ont pu bénéficier du bienfait de ces médicaments et que l'on ne sait pas non plus ce qu'elles seraient devenues si elles n'avaient pas bénéficié de ces traitements. La conquête des droits des usagers de la psychiatrie passe aussi par l'intermédiaire d'associations. Associations constituées par des usagers pour des usagers ou par des professionnels pour des usagers. J'ai constaté qu'une association où ce sont des spécialistes ou des professionnels qui font vivre, celle-ci aura plus de chances de durer qu'une association organisée uniquement par des usagers de la psychiatrie. Et c'est vrai, et là je parle plutôt d'associations étrangères, que dans un tel cas, le risque existe que tôt ou tard se manifestera une lutte pour le pouvoir, un peu comme à l'UMP en France en ce moment. J'ai constaté que plusieurs associations françaises ou allemandes ont vécu de telles luttes. Et que dire alors des associations en général mixtes, mais où des professionnels de la santé, voire des politiques, sont aux commandes. Là, généralement, ce sont des personnes engagées et payées pour ça qui font tourner ces associations. Et leurs prises de décision sont parfois contestées par les usagers. Et les usagers sont parfois confinés dans un stade d'observateur, les expressions publiques spontanées des usagers étant généralement peu goûtées par les personnes au commandes. Mais ce sont ces organisations-là qui sont prisées par les autorités parce que généralement plus consciencielles. Je me permets de rajouter plus consciencielles aussi parce qu'elles dépendent aussi de subventions octroyées par ces mêmes autorités. Les associations d'usagers ont une association ferroviaire en Europe. Elle s'appelle ENUSP, en abrégé, le sigle, c'est-à-dire European Network of Ex-Users and Survivors of Psychiatry. Les usagers se considèrent donc comme des survivants de la psychiatrie. Les institutions psychiatriques et les associations psychiatres ne devraient pas simplement rejeter cette qualification. Et si cette organisation fêtière existe, c'est aussi parce qu'elle a dans chaque pays européen des correspondants et qu'en conséquence, on retrouve dans tous les pays européens le même sentiment parmi les usagers, à savoir que les traitements médicamenteux qu'ils reçoivent sont une véritable roulette russe et dont on ne sait pas vraiment à l'avance qui va y rester et qui va y survivre. Si les institutions psychiatriques et les psychiatres souhaitent dialoguer avec les usagers de la psychiatrie, il est indispensable que ce point soit abordé ouvertement. Le sujet ne doit plus être un tabou. Alors donc voilà, comme mon temps est compté, je vais devoir arrêter ici. J'ai sans doute pas dit tout ce que j'aurais voulu ou dû dire, mais je crois que l'essentiel y est. Je n'ai notamment pas entrepris d'établir la liste de toutes les organisations et personnes ayant milité et militant sur Genève, qui relevaient tout ce qu'elles ont fait. J'espère surtout que j'aurai aussi suscité votre intérêt en évoquant des sujets en vue des débats qui auront lieu tout à l'heure.
Merci beaucoup. Alors peut-être comme tout à l'heure, on a un peu de retard, mais pas encore trop. Est-ce qu'il y a des questions?